Les As de la Copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Les As de la Copro. Bienvenue à tous les copropriétaires, bienvenue à tous les gestionnaires, à tous les syndics de copropriété. Et on commence, si vous voulez bien, avec la première séquence, 1000 millième l'invité.
Les As de la Copro, 1000 millième.
Dans 1000 millième, aujourd'hui, je reçois un syndic, je reçois Adrien Vacheran. Bonjour Adrien.
Bonjour Gilles, merci de votre accueil.
Alors Adrien Vacheran, vous êtes syndic à Lille, vous êtes directeur général de Vacheran Immobilier.
Tout à fait.
Et on a un petit quart d'heure aujourd'hui pour parler de votre modèle de développement. Vous avez plusieurs agences et un modèle, on va dire, ouvert.
Participatif.
Participatif, ouvert aux collaborateurs. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un tout petit historique de Vacheran Immobilier, qui est un cabinet familial dans la plus pure tradition des administrateurs de biens?
Absolument, enfin pas si vieux que ça pour un cabinet d'administration de biens, parce que donc la boîte a été créée en 1997, octobre 97 par mon père, pour être très précis, donc il avait 40 ans. Avant ça, il avait travaillé une petite vingtaine d'années chez un administrateur de biens très traditionnel lillois, où il a dirigé les services syndic et gestion locative. Et voilà, à 40 ans, il a décidé de prendre son indépendance, son envol et de s'installer en partant from scratch, hein, de zéro. Et bah voilà, il a développé son cabinet, alors principalement en gestion locative au début, parce que c'était le métier où il avait le plus d'atomes crochus, mais également aussi une petite activité de syndic. Puis voilà, la boîte s'est développée, on va dire, progressivement, jusqu'aux années 2005-2007, où la seconde génération est arrivée. Ça a commencé par mon frère, qui est arrivé en 2005, et puis moi qui est arrivé en 2007, et enfin ma sœur qui est arrivée en 2015 ou 2016. Voilà, donc après, c'est la seconde génération qui a poursuivi le travail de mon papa, et on a développé progressivement l'entreprise ainsi.
Donc vous êtes directeur général?
Tout à fait.
Votre sœur?
Présidente.
Et présidente.
Voilà.
Donc ça reste dans la famille?
Ça reste dans la famille, exactement. On a fait une vente familiale il y a 2 ans, parce qu'on a racheté la boîte avec ma sœur, à mes parents. Et effectivement, on reste bien dans une entreprise stricto familiale, on va dire, puisque on a organisé donc via une holding qui détient en partie nos agences. Et après, effectivement, la particularité, c'est qu'on est associé avec nos directeurs d'agence, la plupart du temps à 50-50, parfois.
Alors on va en parler. On va
en
parler.
Très bien.
D'abord, je voudrais que vous nous disiez aujourd'hui, donc vous êtes sur la région lilloise, vous avez combien d'agences là, en 2025?
Aujourd'hui, on a 14 agences qui vont de la Côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer, en passant par Dunkerque, Bergues, la Flandre intérieure, ce qu'on appelle la Flandre intérieure, donc Bayeul-Armentière. Ensuite, on a 5 agences sur la métropole lilloise, donc Fesches-Thumesnil, Marcq-en-Barœul et 3 sur Lille Intramuros. On est une agence dédiée à l'immobilier d'entreprise, donc gestion d'immeubles tertiaires, syndic tertiaire, parc d'activité. Une agence qui fait que de la transaction à Lambersart, qu'on a acquis assez récemment. Et après, une à Valenciennes et une à Maubeuge.
Donc 14 agences.
Tout à fait.
Ce sont des agences qui ont pignon sur rue, vitrine, où vous faites les 3 métiers, transactions, qui sont toutes sous l'enseigne Vacheran Immobilier.
Voilà, enseigne Vacheran Immobilier, traditionnelle. Elles font toutes, principalement les 3 métiers, donc syndic de copropriété, gestion locative, transaction. Il y a quelques particularités, certaines agences ne font que de la gestion, d'autres que du syndic, mais voilà, globalement on est sur le modèle économique traditionnel de l'administration de biens où les 3 métiers sont pratiqués.
Pas de siège ou de service central, par exemple les comptables sont tous dans les agences?
Alors, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais moi je suis un militant de l'artisanat dans notre métier et de la responsabilisation des collaborateurs. Pour moi, c'est une valeur essentielle dans la qualité du service qu'on rend aux clients. Donc, pas de services centraux, enfin en tout cas au minimum. Toute la compta est faite en agence, le traitement des sinistres est en agence, la gestion des immeubles, bien entendu, fait en agence. On a la seule chose qui est réellement centralisée chez nous, c'est le recouvrement des charges, où on a un service juridique qui est composé de 2 personnes, qui se charge de ça pour le coup, pour l'ensemble de nos cabinets.
Pour tout le monde.
Exactement.
Ça fait combien de collaborateurs au total sur ces 14 agences ?
Au total, on a 150 collaborateurs, dont 75 environ qui travaillent sur le métier de la copropriété.
Donc 75, bon, donc la moitié quoi.
Exactement.
La moitié des effectifs.
Aujourd'hui, la moitié de notre activité.
La moitié des effectifs. Alors, on va rentrer un petit peu voilà, dans le sujet. 14 agences. Sur ces 14 agences, Vacheron, Adrien et sa sœur ou la holding ne sont pas systématiquement 100% propriétaires. Vous avez un modèle de développement où vous associez un collaborateur, un gestionnaire, un directeur copro et vous faites 50-50.
Exactement. Alors on a quelques spécificités. Certaines de nos filiales ont deux associés minoritaires, par exemple, ça peut arriver. Mais globalement, le modèle majoritaire chez nous, c'est effectivement le 50-50. 50% est détenu par notre holding et 50% par l'opérationnel, le ou les opérationnels qui dirigent le cabinet au quotidien, qui gèrent des immeubles, qui gèrent les collaborateurs, les clients.
Donc l'opérationnel, etc. C'est quel profil ? Un ancien gestionnaire, enfin un actuel gestionnaire copro, un directeur copro, gestion locative ?
Nos associés opérationnels sont soit des professionnels de la copropriété, donc des gestionnaires, directeurs copro qui ont évolué, ou des professionnels de la gestion locative, puisque c'est un autre métier très important chez nous, qui là aussi ont évolué et qui ont pris des participations dans l'agence dans laquelle ils travaillent.
Alors pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Quelle est la raison de ce développement ? Parce que tout le monde ne le fait pas.
Pour le coup, donc ça c'est un modèle qui est relativement ancien chez nous, parce que c'est quelque chose qui a été initié par mon père au moment où mon frère a intégré l'entreprise en 2005. Donc c'est vraiment quelque chose que lui a lancé et que nous continuons et que nous renforçons, j'ai envie de dire. Alors ça va paraître un peu vieillot, mais pour moi c'est terriblement moderne. Moi on a une vision assez profession libérale du métier. Pour moi, une agence, pour un patron qui a des parts dans la boîte, qui défend les intérêts de ses clients, qui défend les intérêts de l'entreprise, qui défend ses collaborateurs. Et effectivement, moi j'ai un modèle, on vient d'une famille d'entrepreneurs, et pour moi ça passe, cette énergie-là à donner passe par l'association du directeur, qui doit être pleinement impliqué dans ses fonctions, et ça passe par une implication aussi capitalistique. Et puis au-delà de ça, moi j'ai une vision, c'est pas des paroles en l'air de dire ça, moi j'aime le partage, j'estime que la valeur travail c'est hyper important pour nous, c'est assez caractéristique des gens du Nord d'ailleurs je pense, et pour moi le partage de la valeur c'est quelque chose d'hyper important, quelqu'un qui s'investit pleinement dans la société, il doit être associé aux bénéfices.
Alors le collaborateur, l'associé, donc vous parliez d'apport capitalistique, il doit quand même mettre de l'argent sur la table, parce que les sociétés sont soit créées, soit rachetées,
ouais, tout
les
à fait.
Sociétés, les agences.
Voilà, nos agents sont pour la majeure partie du temps, fait l'objet de croissance externe, mais aussi de création. Et dans les deux cas, effectivement, le collaborateur associé rachète des parts ou est à l'initiative du projet à l'origine, donc il est caution à la banque.
Il apporte un peu, il met quelque chose sur la table ou il peut emprunter 100%?
Alors, aujourd'hui, pour l'instant, croisons les doigts, les banquiers nous aiment bien, donc on a souvent des financements. On a souvent des financements avantageux, mais il peut arriver aussi que le collaborateur qui veuille s'associer doive mettre un apport. Voilà. Enfin, ça dépend des situations, mais il est vrai qu'on a un métier assez résilient, assez constant, qui est plutôt apprécié des banquiers qui n'ont pas peur de nous financer.
Vous trouvez des candidats qui sont intéressés par ce modèle ? Pourquoi c'est un modèle vertueux ? Les avantages ? Bah, on fidélise le collaborateur, c'est ça ? On attire plus de monde ?
Les avantages pour l'entreprise, clairement, ça permet, à mon sens, d'attirer les meilleurs. Parce que on offre à ce collaborateur qui devient associé demain la capacité d'être chef d'entreprise, d'être 100% autonome dans son boulot. Moi, on est une organisation très horizontale. Il y a une très très forte autonomie en agence, c'est vraiment des chefs d'entreprise, donc déjà c'est quand même dans l'intérêt intellectuel de leur job au quotidien, je pense que c'est quand même l'attrait numéro un. Ensuite, il y a l'attrait financier, puisque le collaborateur, enfin le directeur associé demain, ouvre le droit à toucher des dividendes, et surtout demain quand il s'en va, va en capacité de revendre ses parts et de toucher le capital sur lequel il aura investi son travail.
Alors, ça fait depuis combien d'années que vous faisiez
2005.
Donc 20 ans. On va dire 20 ans. J'imagine que des fois, il y a eu des loupés, des couacs, des associations qui se sont mal passées. Quels seraient, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient s'inspirer de votre modèle, les pièges à éviter ?
Alors, des couacs, il y en a eu relativement peu, honnêtement. Notre modèle globalement se passe très très bien. Effectivement, il y a eu des départs, mais après c'est le cycle normal d'une entreprise, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des évolutions de vie, de carrière qui font que à un moment donné, il peut avoir des séparations. Mais globalement, ça se passe très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue sur ce modèle-là, parce que pour nous, il fonctionne. Les pièges à éviter, pour moi, il y en a deux. Il y a deux vecteurs qui peuvent être bloquants dans notre modèle. Le premier, c'est les valeurs. Il faut vous associer avec quelqu'un qui vous partage les valeurs, la vision du métier. Nous, on a une vision où, je dis pas qu'on est parfait, mais notre objectif, c'est de rendre un service qualitatif au quotidien aux clients. Et il faut que l'associé partage ses valeurs, partage ses objectifs, voilà.
Syndic de proximité, syndic
de quartier, proche des clients, le client n'est pas un numéro, on est là pour défendre le client, avec des bons honoraires, bien sûr. Voilà, il faut cette partage de valeurs et de vision. Valeurs aussi vis-à-vis des collaborateurs. On prône l'autonomie des collaborateurs, c'est hyper important.
D'ailleurs, souvent, les associés, ce sont des collaborateurs qui étaient déjà chez vous ou qui viennent de l'extérieur, ou un mix des deux.
C'est un mix des deux. Il y a eu beaucoup d'évolutions internes.
Donc ceux qui étaient en interne partagent déjà les valeurs, a priori.
Sinon...
En tout cas, ils les connaissent.
Ou en tout cas, ils les connaissent. Ils peuvent pas dire le contraire. Mais il y a aussi eu des gens de l'extérieur qui sont venus chez nous pour ce modèle.
Ouais, ouais. Et qui étaient proches de vous. Alors, c'est généralement des profils, quoi, 30, 35 ans, qui ont déjà 10 ans d'expérience,
oui,
et qui veulent se mettre à leur compte, mais
absolument,
qui osent pas le faire tout seul et qui trouvent cette opportunité.
Effectivement, qui n'ont pas forcément les capacités de le faire seul financièrement, qui ont besoin aussi d'un support, parce que moi, effectivement, j'ai un petit peu d'expérience dans la gestion, la création, le management de cabinet d'administration de biens, donc c'est rassurant, je pense aussi. Et puis après, c'est aussi...
C'est rassurant, quoi.
C'est rassurant, et puis c'est le partage d'un modèle et l'envie de ne pas être seul, parce que le chef d'entreprise qui dirige sa TPE de 5-10 personnes... Il peut avoir des petits moments de solitude. Nous, on est 12-13 associés autour de la table. On se voit une fois tous les deux mois, on passe une journée ensemble.
Oui, donc
on échange sur nos difficultés, sur nos besoins, puis au quotidien aussi. C'est rassurant, c'est valorisant et puis c'est stimulant.
Alors, sur les valeurs, et ce sera ma dernière question, j'enchaîne. On a un projet, alors... Je précise que vous faites partie du bureau du conseil d'administration de la NGC. Et ces valeurs-là, on les partage tous. Vous êtes sur un projet, enfin nous sommes sur un projet, c'est vous qui vous en occupez, Adrien, d'un label qualité, un QVT, qualité de vie au travail, si on peut l'appeler comme ça. On est au tout début pour toujours autour de la thématique l'attractivité du métier, c'est l'objet de la NGC. En quelques mots, qu'est-ce qu'il y aura dans ce label ?
Alors, en quelques mots, déjà, effectivement, ce label, le but, c'est de renforcer, d'avoir notre label de qualité de vie au travail propre au métier de syndic de copropriété. Et l'objectif, effectivement, c'est de renforcer l'attractivité, d'attirer les nouveaux candidats et surtout de conserver les gestionnaires qui actuellement pratiquent ce métier et qui peuvent, par des conditions de travail dégradées, avoir envie de faire autre chose. Ça, c'est vraiment la priorité numéro un, c'est de fidéliser les collaborateurs dans notre profession. Parce que je pense que tous les professionnels qui nous écoutent le savent. Aujourd'hui, on est dans une situation pénurique. Et voilà, c'est l'objet même de la NGC de renforcer l'attractivité du métier. Et donc, on travaille là-dessus. Donc, concrètement, ce label va inclure un certain nombre de principes. Le mais qui sont déjà connus, je pense, de la plupart de nos auditeurs. Hein,
Qu'on partage déjà.
C'est l'Assemblée Générale en journée, en tout cas soutenir et favoriser l'Assemblée Générale en journée. L'obligation, entre guillemets, pour les dirigeants de soutenir les collaborateurs qui peuvent être en difficulté avec des immeubles ou des clients toxiques. Parce que c'est hyper important pour la pression mentale du collaborateur d'être soutenu sur ces problématiques-là. C'est de mettre à disposition des collaborateurs des moyens et un portefeuille client adapté pour fournir un service de qualité aux clients.
Donc pas surchargé d'immeubles.
Pas surchargé d'immeubles et avoir les services informatiques, comptables adaptés. C'est bien sûr assurer la formation continue des collaborateurs, parce qu'on... C'est évident qu'un collaborateur formé aujourd'hui est plus à l'aise de répondre aux sollicitations des clients et de lui-même être valorisé dans ce qu'il fait au quotidien.
Donc respecter les 42 heures de la loi Allure.
Respecter les 42 ans de la loi Allure, c'est la base.
Allure, pardon.
Ça, c'est la base. C'est interdiction d'inclure des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail.
Voilà, la NGC... Donc on maintient la clause de non-sollicitation de clientèle, mais on vire la clause de non-concurrence.
On maintient la clause de non-sollicitation et j'ai même envie de dire qu'on la renforce.
On la renforce.
Parce que c'est important de garantir la protection des intérêts économiques des cabinets qui vont adhérer à ce label. Et puis après, c'est de la déontologie métier. Je pense que c'est hyper... On doit être force d'exemple là-dessus. Un collaborateur qui change de cabinet ne doit pas solliciter ses anciens clients. C'est les règles de base de déontologie loi Hoguet. Il faut les maintenir, les inciter.
Par contre, il doit pouvoir bosser.
Il
doit pouvoir bosser, faire son métier là où il veut, à côté de chez lui.
Il doit pouvoir bosser. Aujourd'hui, on peut pas se plaindre de pas trouver de collaborateurs et inclure des clauses de non-concurrence dans nos contrats qui font fuir les gens. C'est plus possible. Et donc, c'est l'objectif de ce label.
Alors, il y aura aussi
renforcer l'attractivité et aussi pour les collaborateurs.
Des engagements côté collaborateur.
Voilà. Des engagements collaborateurs. Et l'objectif aussi, c'est que le collaborateur qui rencontre des difficultés, qui a des conditions de travail dégradées aujourd'hui, puisse candidater dans un cabinet. Qui a pris ces engagements-là et voilà, c'est une garantie pour les collaborateurs qui rencontrent aujourd'hui des conditions de travail dégradées, qui veulent rester dans ce métier de gestionnaire parce qu'ils l'aiment, mais qui ont nécessité de changer de cabinet.
On va dire que le cabinet qui aura ce label embauchera peut-être plus facilement des collaborateurs.
C'est l'objectif.
Ok, eh ben je vous remercie, on a légèrement dépassé. Merci beaucoup Adrien Vacheran. Je rappelle que vous êtes directeur général de Vacheran Immobilier, 14 agences dans le Nord, à Lille et autour de Lille. Je vous remercie beaucoup et on continue l'émission sur la séquence Les
Merci
Experts.
Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
Allez, on enchaîne sur la deuxième séquence, l'analyse des experts. Et aujourd'hui, j'ai mes as, j'en ai deux. J'ai Mathieu Mialard. Et bonjour Mathieu.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Toujours responsable directeur métier ADB, syndic Foncia depuis 25 ans bientôt, une légende chez Foncia. Pierre-Édouard Lagrelet, bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Gilles.
Notre avocat préféré, il est toujours là. Il faut toujours un avocat sur un plateau, près de soi. C'est un bon plombier, un bon avocat, un bon architecte. Et là, vous serez un bon syndic. Toujours au barreau de Paris et de Bordeaux.
Toujours.
Et aujourd'hui, j'ai ramené le bouquin Le Syndic. Alors peut-être un jour une autre version parce que la législation évolue vite. Mais je rappelle, Le Syndic chez Edilex, la Bible que je vous invite à lire si vous êtes un professionnel ou même autre. Alors, justement, on va parler là pendant 10 minutes du syndic. Vous avez dit dans ce bouquin à un moment donné, donc je cite Pierre-Édouard Lagrelet, le syndic assesseur des pouvoirs publics. Ça en dit long. Qu'est-ce que vous avez voulu dire derrière cette phrase ?
Oui, alors c'est une expression, je ne suis pas le seul, en tout cas dans cette forme, peut-être que c'est effectivement ma formule. On est plusieurs à avoir pensé que le syndic se trouvait de plus en plus face à des responsabilités qui l'éloignaient de la mission traditionnelle, de la mission socle qui était la sienne et qui était celle fixée par la loi de 1965 à son origine. Et aujourd'hui, on constate finalement que l'environnement des fonctions du syndic a largement évolué avec l'intégration soit de nouvelles dispositions dans la loi de 1965, soit de l'émergence de nouvelles dispositions dans des textes un peu plus diffus, que ce soit du droit de la santé publique, du droit de la construction ou encore du droit de l'environnement. Et ça conduit le syndic à délivrer de nouvelles informations, à s'obliger à prendre des actions, à proposer des résolutions au syndicat des copropriétaires. Et finalement, que ce soit soit directement en le contraignant lui, soit indirectement à travers le syndicat, on voit qu'un certain nombre de fonctions sont finalisées. C'est-à-dire que c'est le législateur ou l'État qui vient dire au syndic et au syndicat ce qui doit être fait, ce qui est dans l'intérêt des copropriétaires.
Comme un relais.
Ou dans l'intérêt de tous, exactement. Comme un relais. Et c'est pour ça que j'avais parlé d'un assesseur, un assesseur commode des pouvoirs publics, parce que le syndic finit par défendre moins, en tout cas pas toujours, les intérêts particuliers des syndicats qu'il représente, et donc l'intérêt collectif des copropriétaires, mais peut-être davantage l'intérêt général, ce qui n'est pas du tout la même chose, et j'y reviendrai, ce qui peut poser une question de positionnement du syndic. Et donc c'est comme ça qu'il lui est demandé de mettre en œuvre des politiques publiques qui sont pensées donc par le gouvernement ou par le législateur pour répondre à des besoins qui paraissent être des besoins sociaux ou des besoins économiques au niveau national. Donc on pense bien sûr aux...
Alors des exemples.
Oui, on pense aux exemples de la prévention des risques, par exemple en matière d'amiante, de noyade, lorsqu'on a des piscines collectives ou d'incendies, par exemple quand on a des immeubles de grande hauteur. On pense également à la lutte contre la dégradation des immeubles, alors que ce soit en matière d'habitat indigne ou de copropriétaires en difficulté, où on va faire peser sur le syndic des obligations d'alerte, de déclenchement de procédures, de déclaration, parce que le registre de la copropriété, c'est aussi fait pour ça, à la fois pour permettre au gouvernement d'obtenir des statistiques par la tenue de ce registre qui pèse sur le syndic.
La mise à jour du registre des copropriétés de l'ANAH, c'est typique.
Mise à jour du registre, effectivement, avec toutes les informations qu'il faut collecter, et vraisemblablement une augmentation de ces données dans les années à venir, puisque dans la dernière réforme qui est intervenue à propos du registre, il a été un peu modifié la règle pour poser des grandes catégories, ce qui permettra par décret de modifier le contenu finalement du registre, de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus fréquente, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on aura besoin d'une nouvelle donnée, alors le « on », évidemment, c'est le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics de manière générale, et on pourra demander au syndic de faire une nouvelle déclaration, de mettre à jour une nouvelle donnée sur, je ne sais pas, les travaux, la consommation énergétique, pourquoi pas, de dire quelle est la dépense spécifique en matière de chauffage collectif lorsqu'il y en a. On peut imaginer plein de nouvelles données pour établir de nouvelles statistiques et engager de nouvelles politiques publiques que le syndic devra mettre en œuvre. Et donc c'est comme ça que finalement il devient, et un confrère avait utilisé cette expression aussi, le bras armé de la puissance publique, c'est une autre image pour parler de cette situation. Et puis évidemment il y a le développement durable aussi, hein, avec l'obligation qui est mise à la charge du syndicat d'établir un projet de plan pluriannuel de travaux avec un DPE, mais évidemment c'est le syndic qui va être chargé de cette mise en œuvre, et on voit bien que c'est vers lui que se tournent les pouvoirs publics, c'est vers lui qu'il va se tourner pour en discuter, pour savoir comment on peut le mettre en œuvre avec les chambres professionnelles, et on sent qu'il y a une très forte attente de la part des gouvernants vis-à-vis de la profession des syndics de copropriété pour mettre en œuvre la politique qu'ils ont décidée. Et donc ça pose un problème, on va dire, ontologique, si on peut le dire pour le syndic, c'est un vrai problème d'être. Qu'est-ce qu'est le syndic, et non pas en quoi il existe et qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il représente. En 1965, et même avant, en 1938, les intérêts qu'il représente, ils sont clairs, sont des intérêts catégoriels. Il représente les intérêts des copropriétaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce que, bien sûr, on peut dire que les copropriétaires, finalement, ont un intérêt à rénover énergétiquement l'immeuble. Les copropriétaires ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'amiante dégradé. Les copropriétaires ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas de plomb dégradé. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une politique d'intérêt général qui est menée. C'est pas une politique d'intérêt particulier. Et donc, on voit bien que le syndic se trouve finalement dans une situation qui est un petit peu délicate. C'est qu'il doit expliquer en quoi la politique d'intérêt général est bonne pour les copropriétaires. Finalement, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire du XXe siècle, et on lui demande de prêcher la bonne parole de ce qu'il faut faire pour que, dans la société d'aujourd'hui, les immeubles soient bien tenus, qu'ils répondent à une norme sociale, économique et donc légale pour que les copropriétaires fassent ce qu'on leur demande. Et ça, c'est un positionnement qui est très difficile, et ça engage évidemment une réflexion sur le métier, une réflexion majeure qui est peut-être menée. D'ailleurs, on l'entend ici et là, il y a des groupes de réflexion autour du métier de syndic pour savoir quel est son avenir. Et je pense que avant de répondre à son avenir, il faut répondre à cette question ontologique de l'être du syndic. Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il doit faire.
Sa mission, ses missions. Il y a un exemple qui est représentatif, Mathieu, c'est les obligations de signalement, une obligation, et notamment l'obligation de signalement des marchands de sommeil à préfecture. Est-ce que vous, en tant que syndic, vous vous sentez comme ça, assesseur commode, c'est vrai, j'avais oublié le mot commode, commode, ça veut dire gratuit, des pouvoirs publics?
Oui, alors... Le syndic met en œuvre quand même la réglementation et la réglementation traduit les grands enjeux de politique nationale, les grands enjeux de politique sur le logement. Donc c'est logique que le syndic et plus particulièrement le professionnel de l'immobilier prennent sa part de la mise en œuvre de ces politiques. Alors quelquefois elles se traduisent par tout un tas d'obligations hétéroclites, pas toujours faciles à mettre en œuvre. Le signalement des marchands de sommeil en est une. Plus généralement, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez enthousiasmant, et notamment pour nos gestionnaires, quelquefois prendre une part active à la rénovation énergétique, prendre une part active à la lutte contre l'habitat dégradé, sont des choses qui motivent aussi. Et au-delà d'un service rendu aux copropriétaires, se dire qu'on est acteur de la politique publique peut être quelque chose de très positif. Moi, ce sujet évoque une espèce de contradiction quand même, entre le rôle toujours plus important des professionnels de l'immobilier et quelque part peut-être un manque de prise de conscience des acteurs, des pouvoirs publics. Je vais essayer de m'expliquer en allant un peu plus loin d'ailleurs que le rôle du simple syndic pour ouvrir sur la gestion locative et les conditions de l'accès au logement. On sait pertinemment que lorsque c'est un professionnel qui gère un bien, toutes les obligations réglementaires seront bien plus respectées que lorsqu'on est sur le marché du particulier à particulier. Je pense au plafonnement des loyers, je pense aux obligations de déclaration de location, les demandes de permis de louer, je pense à la fixation, à l'interdiction de louer quand on a une étiquette G aujourd'hui. On sait que lorsque les professionnels de l'immobilier interviennent, la conformité de l'acte de louer sera bien supérieur que lorsque on est sur le marché du particulier à particulier. Et d'ailleurs, on a des clients en gestion locative aujourd'hui qui nous quittent parce qu'ils trouvent qu'on est un peu trop respectueux de la réglementation et que ça peut nuire à leurs intérêts personnels, ce que disait Pierre-Edouard tout à l'heure. Et c'est pas un coup de gueule, mais c'est un peu une alerte que je souhaite lancer aujourd'hui. C'est bien normal que le professionnel de l'immobilier assure cette conformité, mais on a l'impression que les pouvoirs publics n'en ont pas vraiment conscience et jouent une espèce de double jeu en tapant un peu sur les professionnels de l'immobilier. Je pense à un discours d'un ancien Premier ministre. Alors, ils se sont beaucoup succédés, mais c'était il n'y a pas si longtemps, hein, Gabriel Attal, dans son discours.
C'était
de
2024.
Public. Ouais, c'était en juin 2024.
Il y a eu trois premiers ministres entre-temps, mais c'était 2024.
Voilà, qui parlait d'une rente qu'auraient les syndics, de l'obligation d'ouvrir, enfin de la nécessité d'ouvrir, de déverrouiller le marché. Moi, j'y vois une espèce de contradiction entre les professionnels de l'immobilier qui sont effectivement utiles à la mise en œuvre et d'un autre côté une méfiance des pouvoirs publics.
Tout à fait.
Un paradoxe. Et il faut que tous ensemble, on arrive, supprimer cette contradiction et à plus travailler ensemble, que les pouvoirs publics écoutent les professionnels de l'immobilier qui ont des choses à dire, des solutions sur beaucoup de sujets, et à l'inverse, que les professionnels de l'immobilier acceptent de prendre toute leur part, et c'est bien normal, dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Les pouvoirs publics répondront peut-être, les syndics ont plus de responsabilités, donc peut-être plus de contrôle, mais bon, ça c'est peut-être une pensée très française. Je vous remercie. Effectivement, il y a un groupe de travail sur l'avenir du métier de syndic, présidé, animé au sein du CNH par Henri Buzicazo. Il rendra son rapport dans mi-avril et il viendra sur ce plateau pour nous en faire le rendu. Je vous remercie et puis on passe à la dernière séquence, la question du copropriétaire.
Les As de la Copro, les questions Copro.
Bonjour, j'habite un immeuble à Paris. Un des copropriétaires habite au rez-de-chaussée et il y a une petite cour attenante à son appartement. Il dit qu'il en est propriétaire car ça a toujours été comme ça. Nous pensons que c'est une partie commune. Le règlement de copropriété est assez ancien et n'est pas très clair. Il revendique la prescription acquisitive. Est-ce possible en copropriété? Et si oui, quelles sont les conditions? Merci aux As de la Copro pour la réponse.
Bon, merci, il a l'air très gentil, hein, aimable, ce copropriétaire. L'usucapion, en copropriété, prescription acquisitive, trentenaire, sur une partie commune. Possible, pas possible, si possible, dans quelles conditions, Pierre-Edouard?
C'est possible, c'est naturellement possible, puisque c'est du droit des biens, la question ne se pose pas avec difficulté. La jurisprudence reste néanmoins exigeante. Alors d'abord, elle est exigeante en matière de prescription acquisitive de manière générale, parce qu'il y a des conditions, je vais les énumérer, qui doivent être réunies et qui ne sont pas simples à réunir. Et ensuite, il y a quelques spécificités en matière de copropriété qui peuvent poser des difficultés aux copropriétaires. Alors les critères sont classiques, c'est que lorsqu'on veut se prévaloir d'une prescription acquisitive, donc le fait d'acquérir une partie de l'immeuble par l'écoulement du temps, il faut pouvoir rapporter la preuve d'actes continue pendant 30 ans, par lesquels on s'est comporté comme un copropriétaire, de façon ininterrompue, paisible, publique et non équivoque. Et ces critères-là, cumulés, ils sont assez difficiles à réunir. Par exemple, pour le non équivoque, on peut parler des terrasses qui sont sur des toitures. Eh bien, ça peut être assez délicat de dire qu'une personne a publiquement acquis, par l'effet du temps, cette terrasse, quand personne ne sait qu'il y va, qu'il s'y installe et qu'il fait quelque chose sur cette terrasse.
Oui, il installe une table, il se met
exactement,
un décanisse,
il privatise. Ça n'est pas nécessairement public. Et de ce fait-là, peu importe qu'il se soit comporté comme un propriétaire pendant 30 ans, si ça n'est pas au vu et au su de tous, l'effet de la prescription acquisitive ne pourra pas être constaté. Le caractère non équivoque peut être aussi délicat, parce que la publicité qu'on vient de parler, le caractère équivoque peut être délicat, parce que en copropriété, on est ou propriétaire de partie privative, et là la question ne se pose pas, on va pas revendiquer la propriété, on l'a, ou alors on est en indivision. Et donc déjà, l'utilisation d'une partie commune, elle est sujette à l'équivoque, parce que quand on utilise une partie commune, on peut l'utiliser en tant que copropriétaire, c'est-à-dire en tant qu'indivisaire, et non pas en tant que propriétaire
exclusif. On l'utilise
exclusif.
Plus que d'autres.
Exactement. Et donc l'acte de possession, l'acte d'utilisation, n'est pas toujours suffisant pour démontrer qu'on a voulu se comporter comme un propriétaire exclusif. Et là encore, on a des difficultés à rapporter la preuve de ces actes qui caractérisent la possession non équivoque. Ça, ce sont les premières difficultés, on va dire, qui sont générales, c'est pas qu'en copropriété, mais on voit comment, du fait de cette matière, ça se colore de manière un petit peu plus difficile. Et on peut ajouter que on peut prescrire à la fois la propriété exclusive, mais on peut aussi prescrire un droit de jouissance, qui est un droit réel comme un autre, et donc qui est susceptible d'appropriation. Du moins, ça, c'était la jurisprudence jusque en 2020, c'est un des derniers arrêts qui a été rendu sur la question, mais on peut se poser la question du fait de la réforme pour l'avenir de la position jurisprudentielle, car dorénavant, l'article 6.4 de la loi nous dit que le droit de jouissance doit être, et c'est une condition d'existence de ce droit, mentionné au règlement de copropriété. Donc on peut se demander si pour l'avenir, on va pouvoir encore acquérir par prescription acquisitive un droit dont on exige une formalité comme cause d'existence, la mention au règlement de copropriété. Or là, précisément, par exemple, dans l'exemple, l'exemple qui nous est soumis, le règlement n'est pas clair, donc ça veut dire qu'on n'a pas de mention qui va donner le droit au copropriétaire, et donc on pourrait se demander si encore, dans le cas particulier du droit de jouissance, on pourrait invoquer la prescription acquisitive. Et puis le dernier point peut-être d'alerte pour souligner les difficultés qu'on a en copropriété à acquérir par l'effet du temps, c'est que a priori, on détient assez peu longtemps les lots et donc les éventuelles parties communes sur lesquelles on tenterait d'avoir un droit, on les détient assez peu longtemps parce que la moyenne de détention, c'est à peu près 7 ans. Alors ça varie entre Paris et la province.
Le temps on déménage, on vend, on change d'immeuble.
Exactement. Donc de ce fait, c'est assez difficile de revendiquer la prescription acquisitive pour soi sans la joindre à la possession d'une autre personne et généralement de son vendeur ou des vendeurs successifs parce qu'on va dire oui, mais ça a toujours été comme ça. Mais vous voyez dès lors que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il va falloir apporter la preuve des actes pour chacune des périodes et donc pour chacun des copropriétaires concernés. Donc il faut aller chercher la preuve que les anciens copropriétaires auraient pu détenir, ce qui est très très difficile évidemment à obtenir. Et l'autre problématique, c'est que la jurisprudence, et là-dessus est sévère, elle nous dit que lorsqu'il doit y avoir une jonction entre les possessions, donc quand on a une succession comme ça de propriétaires qui ont tenté de s'approprier une partie commune par l'effet du temps, il faut que l'objet de cette propriété, de cette prescription acquisitive, soit mentionné dans l'acte. Donc si on achète un appartement et avec la prétention d'avoir prescrit la propriété d'une terrasse, il faut que cette terrasse soit indiquée dans l'acte. Si on ne le met pas, on ne va pas pouvoir revendiquer la jonction des possessions, ce qui fait échec à la prescription acquisitive pour le dernier propriétaire. Et donc de ce fait, c'est quand même assez difficile en matière de copropriété de revendiquer la prescription acquisitive, même si c'est théoriquement possible.
Bon, alors réponse à notre copropriétaire, ça va être compliqué pour la personne qui revendique ce droit, puisque c'est à lui quand même d'apporter toutes ses preuves. Et je vous remercie Pierre-Edouard, on enchaîne sur la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, j'habite un immeuble dans la région nantaise. Depuis une semaine, un SDF s'est installé dans le parking. La police que nous avons appelée plusieurs fois ne veut pas intervenir car elle dit que c'est une propriété privée. Cette personne n'est pas menaçante, mais on ne peut pas rester dans cette situation. Que peut-on faire ? Merci aux As de la CoPro pour leur éclairage.
Bon, donc là, on est vraiment dans le métier du syndic. Hein. On a un SDF, ou enfin quelqu'un, un intrus qui s'est installé dans le parking. Menaçant ou pas menaçant, à la limite, c'est pas la question. La police veut pas intervenir parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. Enfin, en tout cas, elle dit qu'elle a d'autres choses à faire. Les copropriétaires appellent le syndic. Que peut-on faire, monsieur le syndic ? Monsieur Mialaret, que peut-on faire ?
Alors, c'est un sujet super difficile hein, et qu'on n'aime pas du tout traiter en tant que gestionnaire. Parce que finalement, ce dont il s'agit, c'est de faire partir quelqu'un qui recherche le minimum vital, hein, un abri pour se réchauffer. Donc, c'est pas quelque chose de très sympa. Mais d'un autre côté, on peut comprendre aussi que c'est pas le rôle des parties communes d'accueillir un sans-abri, que les copropriétaires souhaitent jouir paisiblement des parties communes. Et que ce genre de situation dégénère quasi systématiquement avec des problèmes de salubrité, des problèmes de sécurité.
Au bout de 24 heures, c'est déjà la crise dans l'immeuble.
Ouais. Donc bon, c'est quelque chose qu'il faut traiter et c'est pas agréable, mais il faut le faire. Et alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas de solution magique. Contrairement à ce que la police a répondu à notre auditeur. C'est pas parce que c'est une propriété privée que la police peut pas venir, hein, et notamment depuis 2021, la loi a changé. Vous savez, avant, on faisait voter l'autorisation à la police d'entrer dans les lieux.
Chaque assemblée générale, plus besoin.
Dans les assemblées générales, plus besoin pour la police nationale et la gendarmerie. Maintenant, la loi prévoit que la police peut venir. Bon, bien souvent, elle considère qu'elle a des choses plus importantes à faire, et c'est sans doute bien souvent le cas. Et puis, de toute façon, même si la police vient, convainc le SDF de partir, ça n'empêchera pas de revenir juste après. Donc, c'est pas forcément une solution miracle. La meilleure solution, mais là encore, il faut que les personnes puissent venir, et puis il faut une coopération de la personne sans abri. C'est d'appeler le 115, hein, le SAMU social. Dont le rôle est de trouver un hébergement d'urgence et puis de diriger les sans-abri vers des associations ou des services municipaux publics qui pourront mettre en œuvre un accompagnement un peu plus profond et structurel. Mais là encore, il faut déjà que ces services aient le temps d'intervenir. Ils sont très sollicités. Et puis, il faut une collaboration de la personne sans-abri parce que si elle-même ne souhaite pas, personne ne pourra l'obliger à y aller. Donc, c'est un peu terrible. D'autres solutions existent.
Plus musclées.
Et un peu plus radicales, si je puis dire. Alors, la meilleure solution, déjà, c'est de veiller en préventif à ce que l'accès ne soit pas simple. Hein, si tout est fermé, si les portes des locaux communs sont fermées, si la porte du parking fonctionne bien, déjà, c'est moins facile de venir s'installer. Et puis après, effectivement, on peut faire en sorte que la situation soit inconfortable pour la personne hein, qui est là, en jouant sur l'éclairage, en laissant allumer tout le temps. Et puis, s'il le faut, pourquoi pas en passant par une société de vigile qui s'assurera...
Un agent de sécurité.
Un agent de sécurité qui s'assurera que personne ne vienne ou fera partir les personnes qui viendraient.
Moi, personnellement, je l'ai déjà fait, hein, ça m'est arrivé. Alors, effectivement, c'est très compliqué à gérer sur le plan humain, hein, bien sûr, et puis même... tactique, on va dire. L'agent de sécurité, il reste une nuit, trois nuits de suite, admettons, jusqu'à ce que la personne aille ailleurs.
C'est exactement ça. C'est assez terrible, mais bon, voilà. Là, pour le coup, le syndic n'est pas là pour faire du sentiment. Hein. Son rôle, c'est d'assurer la jouissance paisible pour les copropriétaires, le maintien de l'immeuble en état. Et donc là, son rôle, c'est de faire en sorte, effectivement, de trouver une solution à cette situation compliquée.
Alors cela dit, dans l'immeuble que je vous cite, les copropriétaires, le conseil syndical, comme on était en plein hiver, m'avaient demandé d'être indulgent un peu plus longtemps. Bon, mais voilà, c'est des arbitrages qu'il faut faire et la situation du syndic est un peu inconfortable. À Lille, on fait comment ? On fait comme à Paris quand on a des sans-abri ?
Ouais, effectivement. Alors déjà, il peut aussi y avoir le dialogue. C'est vrai que parfois, on peut avoir des copropriétaires qui ont le réflexe d'appeler SOS syndic, hein, comme on dit, ouais. Mais avant même d'avoir...
Qui sert de SAMU et de police en même temps.
Qui sert de SAMU et de police en même temps. Parfois, en étant poli et sympa, le SDF peut partir naturellement en lui indiquant « Désolé monsieur, désolé madame, mais c'est une propriété privée, vous pouvez pas rester ici. »
En se montrant un peu ferme quand même.
En se montrant un peu ferme quand même. Déjà, il peut avoir des départs spontanés comme ça. Non, après, effectivement, à Lille comme à Paris, je pense que la police a malheureusement d'autres chats à fouetter. Ils interviennent très rarement sur ces sujets-là. Et oui, la société de sécurité privée fonctionne bien.
Ouais. Et je crois que vous avez des sociétés très efficaces à Lille, mais bon, on demandera aux auditeurs, on donnera l'adresse. Je vous remercie beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Merci Adrien Vacheran.
Merci Gilles.
Merci, bon retour dans le Nord. Pierre-Edouard Lagrelais, merci pour vos analyses, toujours aussi fines et pertinentes sur le plan juridique. Et merci, merci Mathieu Mialaret pour votre merci, expérience, Gilles. Vos témoignages de syndic pur. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.